Nous écoutons maintenant la conférence du frère Romaric Morin de l'Ordre des prêcheurs de Bordeaux sur la doctrine sociale de l'Église, conférence enregistrée à l'église Saint-Joseph de Biarritz le 27 mars dernier.
Merci à tous de m'accueillir parmi vous ce soir. Je fais une expérience très particulière qui ne m'était encore jamais arrivée, qui est de me retrouver chez moi sans être chez moi. Et c'est assez déstabilisant quand même, hein, de savoir que je suis dans un lieu qui a appartenu à la famille et qui est sans être chez moi pour autant. Voilà, c'est très amusant comme expérience et merci de m'en donner l'expérience et de me recevoir encore une fois pour vous parler donc de la doctrine sociale de l'Église et sous un aspect peut-être plus spécifique ou un aspect plus particulier, sous une approche plus économique. La doctrine sociale de l'Église, pour faire bref, c'est toute cette partie de l'enseignement de l'Église qui va concerner la vie de l'homme dans sa dimension sociale, que ce soit les questions politiques, la question familiale, les questions économiques ou encore écologiques. Donc la doctrine sociale, ça regroupe un très vaste domaine et qui nous aide à projeter les lumières de l'Évangile sur notre vie en communauté. Et donc, parmi les questions qui se posent, il y a les questions économiques. Pour pouvoir aborder les quelques questions économiques qui font l'objet de cette conférence, donc la question du travail, de ce qui va être juste, de la dignité, etc., nous allons devoir nous approcher pas à pas. Tout d'abord, peut-être faire quelques rappels ou donner quelques précisions très généraux sur les grands principes de la doctrine sociale, d'une manière générale. Puis on verra des précisions sur des principes plus économiques avant de voir des questions plus concrètes. Nous allons affiner de plus en plus nos questions. Les principes très généraux ou les grands repères essentiels de la doctrine sociale et qui vaudront pour tous les domaines de la doctrine sociale auxquels vous pourriez vous intéresser, il y a tout d'abord, premier élément, première notion essentielle, la question de la personne. L'acteur central, l'objet essentiel de la doctrine sociale de l'Église, c'est la personne humaine. En l'occurrence, cette personne, ce qui vient la caractériser, c'est qu'elle est tout d'abord un individu, donc quelqu'un qui est distinct de toute autre personne. Chaque personne est unique. Mais la vache aussi est un individu, et la vache n'est pas une personne. Ce qui nous distingue, on va voir sous deux aspects, un aspect plus philosophique et un aspect plus théologique. Sous l'aspect plus philosophique, nous pouvons dire que ce qui nous distingue des animaux, des autres individus autres que les personnes humaines, et qui fait d'ailleurs que nous ressemblons à Dieu, nous verrons ça la partie théologique, c'est que nous sommes doués d'intelligence et de volonté. Le critère, la caractéristique propre de la personne humaine, c'est cette capacité à connaître, et notamment à connaître le vrai, et à vouloir, et notamment à vouloir le bien, à aimer. Ça, c'est fondamentalement ce qui va caractériser la personne humaine, et ce qui va d'ailleurs être à l'origine la source de sa capacité à être libre. La liberté étant notre capacité à nous porter par nous-mêmes vers ce qui est bien. Ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux quand je veux, ce n'est pas l'absence de contraintes, mais c'est la possibilité à nous porter par nous-mêmes vers le bien. Et pour pouvoir nous porter par nous-mêmes vers le bien, ça suppose une intelligence pour connaître ce qui est vraiment bien et puis une volonté pour le vouloir en tant que bien. Ça, c'est l'approche plus philosophique. D'un point de vue plus théologique, et je l'évoquais, être une personne, ça veut dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, car Dieu est une personne, enfin même trois personnes, un Père, un Fils et un Esprit, qui se caractérisent justement par les relations qu'ils entretiennent entre eux. Et cette lumière théologique vient nous aider à préciser un petit peu la notion de personne, la personne parce qu'elle est capable de connaître et d'aimer, va donc être capable d'établir des relations et de vraies relations avec les autres. Je suis capable de connaître mon prochain et de l'aimer, c'est-à-dire de vouloir son bien. Et c'est ce qui vient donc fonder une capacité naturelle à vivre ensemble. Contrairement à ce que des philosophes très tardifs ont pu dire, l'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Nous ne sommes pas des animaux solitaires, mais on pourrait dire on est des animaux de compagnie. On est fait pour vivre avec les autres, par nature. Ça, c'est la première notion importante, la personne humaine, cet individu doué de connaissances et de volonté, qui vient fonder sa liberté, qui fait que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, et qui va expliquer que nous pouvons vivre en communauté, même que nous avons besoin de vivre en communauté. De cette première notion importante en découle une deuxième, qui est que si nous sommes faits pour vivre ensemble, cette vie commune a une finalité. Tout individu, toute personne qui se réunit avec d'autres personnes pour quelque motif que ce soit pour former une famille, le couple qui décide de s'unir, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, un club sportif, un parti politique, une ville, un pays, tout rassemblement de personnes se constitue en vue de quelque chose qui est ce qu'on appelle le bien commun. Autre notion donc essentielle de la doctrine sociale, le bien commun. La raison, la motivation, le but que nous poursuivons quand nous nous réunissons. Si nous nous associons en vue de quelque chose, quoi que ce soit, c'est parce que nous poursuivons ensemble un but qui nous est commun. Un but que tout seul je ne pourrais pas atteindre, un but que tout seul vous ne pourriez pas atteindre, mais que nous ne pourrons atteindre qu'ensemble. Et cette notion est très importante parce qu'aujourd'hui, on en parle très peu. Aujourd'hui, au mieux, on nous parle de l'intérêt général. Et ça semble être équivalent. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que le présupposé dans le bien commun, c'est cette idée que nous sommes faits naturellement pour vivre ensemble. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et donc l'autre est un ami grâce à qui je vais atteindre ce bien commun qui est notre bien, à l'un comme à l'autre. Alors que dans l'intérêt général, le présupposé, c'est que l'autre, je ne suis pas fait pour vivre avec les autres, et donc l'autre est non pas un ami qui me veut du bien et à qui je veux du bien, mais au contraire quelqu'un qui vient mettre une limite à mon intérêt. Dans l'intérêt général, c'est un peu cette idée que si nous avons un grand gâteau et chacun une cuillère, eh ben, chacun va manger le plus possible avec sa cuillère et quand ma cuillère rencontre votre cuillère, on a atteint l'intérêt maximum pour tout le monde. Et donc votre cuillère, en fait, vient limiter la mienne. Donc nous partons de ce principe, alors je n'ai pas le temps de déployer, de justifier ce soir, mais qui se justifie, que nous sommes faits pour vivre ensemble et que nous sommes faits en vivre ensemble pour chercher ensemble un bien qui nous réunit. La troisième notion importante, et là on va commencer à affleurer d'ailleurs une question qui va être importante pour l'économie et qui parfois fait un petit peu réagir parce qu'elle vient nous titiller, c'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Première notion, la personne. Deuxième notion, le bien commun. Troisième notion, la destination universelle des biens. Qu'est-ce à dire ? La destination universelle des biens, c'est cette idée que Dieu a donné l'ensemble de la création, l'ensemble des biens de la création, à l'humanité tout entière. Dieu a confié à toute l'humanité l'ensemble des biens de la création pour permettre à chacun de vivre, pour que chacun trouve dans cette création les moyens de sa subsistance. Pour le dire un peu autrement, ça signifie que nous avons tous un droit naturel inscrit dans la nature de l'homme, nous avons tous un droit naturel d'accéder aux biens de la création dont nous avons besoin pour vivre. Pour le dire autrement, encore autrement, tout est à tout le monde. Là, je pense que vous pouvez peut-être commencer à percevoir les dangers ou les implications d'une telle formulation. Tout appartient à tous. Et là, vous pourriez dire, mais ça, c'est ce qu'on appelle le communisme. Eh oui, alors ça n'est pas exactement ça. Parce que l'Église, à la différence du communisme, reconnaît la légitimité du droit de propriété. Le droit de propriété, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que par mon travail, par la mise en valeur que j'ai exercée de la création, j'ai acquis la possibilité de m'approprier une partie des biens de la création pour assurer ma subsistance et m'assurer une certaine sécurité dont j'ai besoin pour la liberté. J'ai donc tout à fait le droit de m'approprier les biens qui vont me permettre de vivre et d'assurer la sécurité et la liberté de ma vie et de ma famille. Mais, précise l'Église, ce droit-là qui est légitime est un droit dérivé, second. Dérivé ou second, ça veut dire qu'il passe en second plan par rapport à la destination universelle des biens, qui, elle, est un droit naturel. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? C'est là où, généralement, ça fait réagir. Cela signifie que... Je vais prendre un exemple d'abord facile et un exemple plus compliqué. Un exemple facile. Si je suis le seul propriétaire de la source d'eau du village, je suis propriétaire du champ dans lequel il y a la seule source d'eau du village, je n'ai pas le droit d'empêcher les autres de venir se servir à la source. Ça, on peut le comprendre à peu près, si on va un peu plus loin dans le raisonnement. Ça signifie que si j'ai cherché honnêtement à gagner ma vie et avoir de quoi assurer ma subsistance pour aujourd'hui, et qu'en dépit de tous mes efforts, je n'ai pas trouvé de quoi travailler et je n'ai pas pu obtenir de quoi me faire vivre et faire vivre ma famille, et que je me retrouve avec la fin de la journée, à la fin de la journée sans rien pour vivre, et que je passe devant un grand champ de pommiers et que je me sers de quelques pommes pour ma subsistance, ce n'est pas un vol. Il ne s'agit pas ici de dire que l'Église autorise le vol. L'Église n'autorise pas le vol. Il s'agit de dire qu'en fait, il n'y a pas de vol. Pourquoi ? Parce que ces pommes, avant de pouvoir être appropriées, sont d'abord la propriété de tous. Et certains pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, iront même très loin dans la déclaration en disant « Le voleur, ça n'est pas celui qui est allé se servir de ses pommes, c'est toi qui possèdes ce champ de pommes et qui n'as pas donné ses pommes à celui qui avait faim. » C'est là où ça peut faire réagir un petit peu. Hein. Ça, je l'entends. Alors attention, ça ne doit pas légitimer le fait que, par conséquent, je n'ai plus besoin de travailler, je ne fais rien, je me laisse vivre, et puis j'irai me servir chez le voisin. Non, la condition préalable, c'est que j'ai quand même réellement cherché à gagner honnêtement de quoi faire vivre ma famille. Mais si je n'y suis pas arrivé, une personne ne pourra pas m'opposer sa propriété privée pour m'empêcher d'accéder aux biens dont j'ai besoin. L'autre condition, évidemment, c'est que, en allant me servir de pommes, je ne vais pas priver l'autre de sa subsistance à lui aussi. Si je vais piquer à mon voisin la seule pomme qu'il a pour vivre, là, c'est pas juste pour le coup. Ça pose une petite question que je glisse comme ça maintenant, je vous laisse y réfléchir et on en reparlera à la fin pour autant des questions. Quand je fais l'aumône à quelqu'un dans la rue, je vois un SDF dans la rue et je lui donne quelques euros. Est-ce que je pose un acte de justice ou est-ce que je pose un acte de charité ? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, c'est pas si facile que ça. Premier principe, la personne humaine. Deuxième principe, le bien commun. Troisième principe, la destination universelle des biens. Et troisième grand principe de doctrine sociale de l'Église, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est un nom que l'on connaît assez facilement. La notion peut être plus ou moins floue. En fait, le principe de subsidiarité désigne deux choses. Au sens positif du terme, c'est cette idée, et c'est le sens premier, cette idée que tout échelon supérieur se doit d'être en aide, en latin l'aide subsidium, subsidiaire, l'échelon supérieur doit venir en aide à l'échelon inférieur. L'État doit venir en aide et doit être en aide, doit venir pour aider la commune. C'est dans ce sens-là. L'État, la commune et autres sont là pour aider la famille éventuellement dans son rôle éducatif. l'échelon supérieur aide l'échelon inférieur. Ça, c'est le sens positif. Puis il y a le sens négatif, privatif de la subsidiarité. L'échelon inférieur n'est pas fondé, autorisé à intervenir dans ce qui relève de l'échelon inférieur, sauf défaillance grave de l'échelon inférieur. C'est ce qui explique, par exemple, que normalement, l'État n'est pas fondé à intervenir dans l'éducation des enfants, qui relève de la responsabilité des parents. L'État est là pour aider les parents à mener leur mission, mais il ne peut pas se substituer à eux, prendre leur place et intervenir dans l'éducation, sauf situation familiale très défaillante, où les parents, effectivement, ne sont plus en capacité du tout d'assurer leur mission. Voilà pour les principaux principes de la doctrine sociale de l'Église. Il y en aurait encore d'autres, mais on ne peut pas tout développer, surtout si nous voulons parler un peu plus de questions économiques et liées au travail. Sur des repères plus économiques, des principes plus économiques, avant de voir les questions du travail, je retiens tout d'abord l'idée du marché. Le fait que l'Église reconnaît que le marché est le libre marché concurrentiel est l'un des moyens les moins mauvais, en tout cas, si ce n'est le meilleur, pour permettre à chacun d'exercer une activité économique qui lui permettra d'assurer sa subsistance. En soi, pour le dire autrement dit, l'économie de marché n'est pas intrinsèquement désordonnée ou mauvaise. Au contraire, à condition qu'elle soit là pour que le marché fonctionne sur des principes moraux acceptables, pas de mensonges, pas de vol, pas de tromperie, pas d'abus, ni rien, et que le marché soit là pour chercher et orienter vers le bien commun. Et là, on pourra aussi vous se poser la question, pour certains marchés, notamment la place de la spéculation, qu'est-ce qui est légitime ou non ? D'où d'ailleurs la question financière et l'enjeu du profit. Pour l'Église, il est tout à fait normal et légitime qu'une entreprise fasse du profit comme garantie du bon fonctionnement de l'entreprise qui lui permet de déployer son activité, de faire vivre ses salariés et de fournir à la société les biens et services dont elle a besoin. Donc là-dessus, pas de problème. Attention, la finalité de l'entreprise n'est pas en tant que telle le profit. La finalité de l'entreprise est de servir le bien commun. D'une part en donnant du travail à ceux qui en ont besoin, d'autre part en produisant des biens et services utiles et bons à la société. La finalité de l'entreprise n'est pas le profit pour le profit, c'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas de gagner toujours plus d'argent, parce que le risque, c'est qu'à force de dire ça, c'est gagner plus d'argent, quel qu'en soit le prix, y compris si on produit des choses qui n'ont aucune valeur ou intérêt, trafic de drogue ou je ne sais trop quoi, ou y compris en recourant à des principes immoraux. On va maquiller des comptes, on va espionner ou je ne sais trop quoi. Le principe peut être très clair en tête. Dans les faits, parfois, on peut vite se laisser happer et perdre de vue l'essentiel. D'où l'enjeu de savoir garder aussi une certaine gratuité. Et notamment le pape Benoît XVI, dans certaines de ses encycliques, a beaucoup insisté dans l'économie de marché qui est la nôtre aujourd'hui sur l'importance de garder la gratuité, de savoir faire des choses gratuitement. Je n'en dis pas plus sur ces quelques principes économiques. Je voudrais rentrer maintenant, voir un peu plus, donc la question du travail qui était en titre de cette conférence. La première question que nous pourrions nous poser à propos du travail... Est-ce que le travail est bon ? Est-ce qu'il est bon pour l'homme de travailler ? Ou pour le dire encore autrement, est-ce qu'il appartient à la nature humaine de travailler ? Est-ce que l'homme a été naturellement fait pour travailler ? Et là, nous pourrions être enclins à dire non, parce que le travail c'est pénible, le travail c'est fatigant, et que nous aimons tous les vacances et le repos. Et que nous pourrions estimer que c'est cela la vraie vie, surtout quand on se rappelle que la vie éternelle est souvent présentée comme étant le repos éternel, et que Dieu, au terme de son travail, s'est reposé. Ce n'est pas tout à fait juste. Dieu nous a créés, dès le début, avant même le péché originel, Dieu nous a créés pour que nous travaillions. Le travail fait partie de notre nature humaine et nous avons besoin de travailler. Nous en avons besoin, et Dieu nous le dit quand il confie la création à l'homme, « Multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Et Dieu prit l'homme et le déposa dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Nous avons été créés donc pour travailler. Pour travailler et pour que notre travail, de ce point de vue, prolonge l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu a créé le monde, et ce monde que Dieu a créé, que Dieu ne cesse de créer d'ailleurs, il nous le confie pour que par notre travail, nous le mettions en valeur. Notre travail et notre relation au monde est donc bien là pour mettre en valeur cette création que Dieu nous a confiée. Dieu nous l'a confiée. Nous ne sommes que les dépositaires, pas les propriétaires. Nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Dieu nous l'a confiée pour que nous travaillions, et donc notre travail est donc là d'abord pour servir le bien de cette création. Et deuxièmement, il est bon aussi pour notre propre développement. Notre développement, notre accomplissement dans notre humanité passe par le fait que nous allons travailler, par le fait que nous allons, à travers notre travail, déployer tout le monde de vertus qui nous habite, des vertus de compétence, savoir faire certaines choses, et des vertus de rectitude qui vont nous aider à bien les faire, de faire de façon moralement bonne. Quand je travaille, je pose un acte d'homme qui me fait grandir dans mon humanité. Puisque ce qui me fait grandir en humanité, c'est la vertu, et la vertu grandit en moi parce que je pose des actes vertueux. À force, par exemple, de poser cet acte d'effort pour travailler, je fais grandir en moi la vertu de force sous son aspect de persévérance. Et en grandissant dans cette vertu de force, je grandis dans mon humanité. Dieu nous a créés pour que nous travaillions, et en soi, le travail est bon. Il participe à la mise en valeur du monde et à mon développement. Sauf que là, vous pourriez me dire, oui, c'est très joli tout ça, mais enfin, le travail, c'est quand même pénible aussi. À des moments, c'est quand même fatigant, c'est usant. Et nous, à la rigueur, pour un certain nombre de travaux, quand il s'agit de faire quelques besognes, c'est fatigant, mais pas plus. Mais il y en a pour qui le travail est même plus qu'éreintant, une menace pour leur santé. Aller expliquer au petit gamin de 10 ans qui pousse un wagonnet de charbon au fin fond d'une mine de je ne sais trop quel pays qu'il a la chance par son travail de participer à la mise en valeur de la création et à l'épanouissement de son humanité, je ne suis pas sûr que ça lui parle tout de suite spontanément quand même. Mon chéri, mais rends grâce à Dieu pour ce wagon de charbon qui te fait devenir plus homme. Faut oser quand même. Oui, le travail est pénible. Mais cette pénibilité, c'est elle qui est la conséquence du péché originel. Initialement, nous avons toujours été faits pour travailler, sauf qu'au début, le travail était facile pour nous, sans peine, sans effort. Et par le péché originel, la pénibilité du travail s'est ajoutée. À partir de ce moment-là, le travail a commencé à nous coûter. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, dit Dieu à Adam. Et de comprendre cela vient jeter une autre lumière sur le travail. Par notre travail, nous participons à l'œuvre de Dieu. Par tout ce qu'il y a de bon dans le travail, mise en valeur de la création et mise en valeur développement, épanouissement de mon humanité, nous participons à l'œuvre créatrice de Dieu. Quand j'assume, en revanche, la dimension négative du travail, sa pénibilité, son côté éreintant, je participe ici à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Je porte la croix avec le Christ, et en portant la croix avec le Christ, je participe avec le Christ au salut du monde. C'est bon de ne jamais l'oublier face à la difficulté et à l'épreuve du travail, que nous pourrions avoir envie de fuir, et là nous pouvons avoir une motivation supplémentaire, c'est-à-dire, Seigneur, je le vis en union avec vous pour le salut du monde. Il y a une autre dimension encore au travail. Il nous fait participer à l'œuvre créatrice, il nous fait participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Il y a une autre dimension, bien c'est sa dimension sociale. Parce que nous ne travaillons jamais isolément. Nous travaillons avec ou pour d'autres. Le travail est un lieu qui nous met en relation avec les autres. Nous travaillons pour quelqu'un qui nous emploie, nous travaillons pour produire un bien ou un service qui sera utile à d'autres et qui nous met en relation avec les autres. Et puis dans le cadre du travail, nous travaillons avec des collègues, des fournisseurs, des clients, etc. Et le travail nous permet ici d'honorer cette dimension essentielle de notre vie qui est la vie sociale. Et nous le savons bien, nous le voyons bien. C'est d'ailleurs généralement une des principales souffrances pour des chômeurs de longue durée, qui est ce sentiment d'isolement. D'isolement et d'inutilité pour la société, donc de marginalisation. Le travail, l'absence de travail, désocialise la personne humaine. Et c'est l'aspect souvent le plus difficile à vivre. Donc le travail participe à toutes ces valeurs, tous ces enjeux, et cela en souligne donc la bonté. Je précise d'ailleurs un petit point sur cet enjeu du travail, participer à la création, à la rédemption, etc. Il y a là un petit enjeu pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, parce que de plus en plus, nos contemporains ont tendance à concevoir le travail et la vie professionnelle. Je ne parle pas de ceux qui sont encore étudiants, lycéens ou collégiens, parce que là, le travail s'abat sur eux comme une fatalité à côté de laquelle on ne peut pas passer et qu'il n'y a pas tellement de choix. Donc ça, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu iras en cours demain matin. Okay. Pour ceux qui vont travailler dans le monde professionnel, une activité professionnelle sortie du monde des études, il y a une petite déformation qui se développe de plus en plus, qui est d'attendre avant tout du travail que ce soit le lieu de mon épanouissement. Je cherche le travail où je vais, pour parler un peu crûment, m'éclater. Il faut que le travail me plaise et que ce soit le lieu où tout va bien. Ben, c'est pas ça la raison première du travail. Je vais pas travailler d'abord pour mon épanouissement. Je vais travailler d'abord pour participer au bien commun. Ça ne veut pas dire que je devrais nécessairement être malheureux au travail et que si j'y suis heureux, c'est pas bon signe et qu'il faut que j'aille ailleurs où je serai plus malheureux. Pas du tout. Très bien si j'y suis heureux et très bien si je trouve un certain épanouissement au travail, mais ce n'est pas le critère premier. Le critère premier est de savoir si je mets les capacités que Dieu m'a données, je mets les capacités, mais aussi les goûts et les besoins qu'il a mis dans mon cœur, si je les mets au service du bien commun. Ça change un peu la donne. Et pour le dire un peu directement, c'est beaucoup moins égoïste comme approche. Compte tenu de toute l'importance que le travail peut recouvrir, peut avoir, nous comprenons qu'il n'a de valeur que s'il est vraiment l'acte d'une personne humaine. Ce qui donne toute sa dignité et toute son importance au travail, c'est qu'il est l'acte d'une personne. Et que, à travers ce travail, cette personne agit comme personne et exerce la plénitude de son humanité. C'est une œuvre d'homme en tant qu'homme, homme au sens générique, hein, d'être humain. Par conséquent, c'est peut-être une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler, le travail n'est pas une marchandise comme une autre. Ce n'est pas un élément impersonnel. Un employeur n'achète pas un travailleur comme il achète une machine à outils. Et donc on ne peut pas froidement comparer simplement la rentabilité d'une machine avec un travailleur, comme si c'était deux moyens de production strictement équivalents. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours privilégier la personne et au détriment de toute efficacité et rentabilité. Ça, c'est autre chose, ça peut se discuter. Mais en tout cas, je ne peux pas simplement comparer la machine et le travailleur comme si c'était la même chose et je vais voir ce qui va me rapporter le plus de bénéfices avec le moins de coûts. Sous ce rapport-là, le travail est un facteur de production supérieur, qualitativement supérieur à n'importe quel autre moyen de production. Et cela va signifier aussi que le but du travail doit aussi être orienté vers le bien de celui qui l'accomplit. Et c'est pourquoi il y a des conditions de travail qui ne sont plus dignes de la personne humaine. Le travail doit aussi participer, normalement un vrai travail doit aussi participer à un certain bien et une certaine dignité de celui qui travaille. Alors oui, le travail prime les outils de production, ce qu'on pourrait appeler le capital. Mais cette primauté du travail sur le capital ne veut pas dire pour autant, et c'est toujours des questions d'équilibre, que le capital n'a strictement aucune importance, parce que sans capital, pas de moyens de production, pas d'outils, pas de machines, et le travailleur ne pourra pas faire grand-chose non plus. De cela va découler quelques droits relatifs au travail. Tout d'abord, des droits au travail. Parce que chaque personne a besoin de travailler, et que c'est une obligation pour chacun de travailler. C'est un commandement de Dieu, et c'est inscrit dans notre nature, c'est une nécessité de notre nature, parce que chez nous, c'est une nécessité vitale et un devoir que Dieu nous donne. Il y a donc, d'un certain point de vue, un droit au travail. Un droit au travail, c'est-à-dire un droit à exercer cette activité qui est digne de moi et dont j'ai besoin pour vivre, parce qu'il va me permettre de faire vivre ma famille, de participer au bien commun, etc. Ce droit au travail va avoir une conséquence, notamment dans le monde de l'entreprise. Et même pas simplement dans le monde de l'entreprise, pour nous, quand justement nous faisons l'aumône à un pauvre dans la rue. S'il est bien de donner de l'argent à celui qui n'a rien pour vivre, il est mieux, encore mieux, si cela m'est possible, que je lui donne un travail. Si par exemple j'ai les moyens d'embaucher une femme de ménage, il est mieux d'embaucher une femme de ménage et donc de lui donner l'argent à travers un salaire et un travail qu'il a mérité, plutôt que de lui donner directement cette même somme sans avoir à travailler. Parce que ce travail participe aussi à sa dignité d'être humain. Et cela vaut donc encore plus pour une entreprise. Si une entreprise peut se permettre, sans menacer sa viabilité économique, sans risquer la faillite ni quoi que ce soit, mais peut se permettre d'embaucher des personnes peut-être pas absolument nécessaires, peut-être pas absolument efficaces, mais pour qui il sera bon d'avoir un lieu où travailler et avoir une vie sociale, etc., eh bien, il est du devoir de l'entreprise de le faire. Et il est préférable que l'entreprise fasse moins de profit, mais donner du travail à ces personnes, plutôt que maximiser son profit en minimisant le nombre de personnes et en cherchant à rentabiliser au maximum les personnes que l'on fait travailler. Cette question du travail, de ce droit au travail, découle aussi des droits du travailleur. Et le premier droit que le travailleur a, et comme expression justement de sa dignité de travailleur, c'est le droit à une juste rémunération. Question très compliquée. Très compliquée de savoir la juste rémunération. Le principe, en justice, c'est que la justice nous pousse à rendre à chacun ce qui lui est dû, selon ses besoins et ses mérites. Il y a les deux critères, les besoins et les mérites. Ce dont j'ai besoin pour vivre, et selon les mérites, c'est-à-dire les efforts fournis proportionnellement à la manière dont j'ai participé au bien commun. Plus j'ai des mérites, plus j'ai exercé un mérite important par rapport au bien commun, c'est-à-dire plus j'ai une responsabilité par rapport au bien commun, plus il est légitime que j'ai une rémunération élevée. Celui qui assume une plus grande responsabilité dans l'entreprise par rapport au bien commun peut légitimement avoir un salaire supérieur à celui qui a une moins grande responsabilité. Parce que le mérite n'est pas le même. Sans porter atteinte pour autant aux besoins. C'est ce qui explique, soit dit en passant, la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Il y a ceux qui arrivent au tout début, on dit, ben voilà, tu auras le droit à un denier pour ta journée de travail. Un denier, à l'époque, c'est le salaire journalier. C'est ce qui permet à la personne de vivre pour une journée. On lui donne en toute justice ce à quoi elle a droit en fonction de ses besoins et aussi de ses mérites. Tu auras travaillé une journée, tu mérites ça. L'ouvrier de la dernière heure n'a effectivement aucun mérite, ou quasiment pas. Il a travaillé qu'une heure, son mérite est néant. En revanche, le besoin reste quand même le besoin du salaire journalier. Il gagne la même chose que les autres parce que son besoin pour vivre est le même. Cette question est assez complexe à apprécier, hein, parce qu'on peut comprendre qu'il va y avoir des différences, mais dans quelle proportion ? Qu'un chef d'entreprise gagne 2, 3, 4, 5 fois plus qu'un de ses employés, pourquoi pas ? S'il gagne 20 fois plus, 100 fois plus, à partir de quand est-ce que ça devient un peu plus étonnant ? Et cette appréciation du besoin et des mérites est complexe. Vous voyez, il y a un système de rémunération là qui nous a tous concernés au moins une fois dans notre vie, les notes en classe. Entre l'élève brillantissime, ultra doué, qui a bossé 4 minutes pour rendre un devoir excellent, et un élève pas très doué, qui a bossé tout son week-end pour rendre un devoir médiocre, comment est-ce que ça se note ? Sur la qualité de la copie ? Selon les aptitudes de départ ? Selon le travail fourni ? Comment être juste ? Et c'est pareil avec le salaire dans l'entreprise. Droit à une juste rémunération qui est à minima celle qui permettra d'assurer ma subsistance et celle de ma famille. Droit du travailleur, droit d'accéder à la propriété pour justement, autre droit du travailleur, droit d'accéder à la propriété pour justement assurer la sécurité et la liberté de sa famille, une certaine autonomie. Et puis un droit d'association et corrélativement un droit de grève. Ah, attention, 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 ce droit d'association et ce droit de grève sont là pour défendre le bien commun, pas pour défendre l'intérêt sectoriel de ceux qui se mettent en grève. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas un intérêt égoïste. Nous défendons ce qui nous semble être le bien de l'entreprise. Il en résulte par conséquent que le travail ne peut pas et ne doit pas être un asservissement, il ne peut pas s'exercer dans des conditions qui sont indignes de l'homme, conditions de travail matérielles inacceptables ou quoi que ce soit, et qu'il doit aussi laisser un temps de repos. Il est inscrit, toujours pareil, dans la nature de l'homme, de se reposer le septième jour. C'est dans la loi naturelle. Nous avons naturellement besoin de cette journée de repos. Sachant que le repos, tel que Dieu le prévoit, c'est pas l'inactivité, c'est pas le farniente, c'est pas je bulle toute la journée. Le repos, c'est le temps pour reprendre des forces, et Dieu nous le donne d'abord, pour reprendre des forces en vivant un surcroît de charité et une plus grande attention à notre prochain, et deuxièmement, en prenant le temps de contempler, de prier, de méditer et de nous tourner davantage vers Dieu, qui est le véritable repos de notre âme. Et ça, nous l'oublions. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Mère Teresa que tout chrétien devrait prier une heure par jour, sauf les gens très occupés, qui eux doivent prier 2 heures par jour. Quand on dit ça, généralement, tout le monde dit « moi, je ne suis pas très occupé, en fait. Hein, » finalement, ça. Et c'est vrai. Plus je suis occupé, plus je suis accaparé, plus je risque d'être asservi et sous pression, et plus je vais avoir besoin d'un temps conséquent pour me libérer et être en paix avec Dieu. Il y aurait encore beaucoup d'autres considérations économiques à vous partager, mais voilà en tout cas à quelques grands traits, quelques éléments de doctrine sociale et leur application en matière de travail et de dignité du travail et du travailleur. Je vous laisse réfléchir à nouveau à la question l'aumône, acte de justice ou acte de charité.
C'était la conférence du frère Romaric Morin de l'Ordre des Prêcheurs de Bordeaux, conférence donnée le 27 mars dernier à l'église Saint-Joseph de Biarritz.